Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, qui à l'oreille du peuple? Nous recevons pour en parler la philosophe belge Chantal Mouffe à l'occasion de la parution de son essai Pour un populisme de gauche qu'elle consacre donc aujourd'hui à cette question. Elle sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour commencer, un double anniversaire à célébrer, celui des 350 ans de l'Opéra de Paris et les 30 ans de l'Opéra Bastille. Rendez-vous tout de suite avec le directeur de l'Opéra de Paris, Stéphane Lister, et avec un artiste plasticien invité pour l'occasion, Claude Lévesque, connu pour ses installations au néon, ses écritures lumineuses et ses œuvres in situ. Ils sont tous deux avec nous jusqu'à midi et demi, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
D'envoi ce mois-ci d'une programmation spéciale conçue pour les 350 ans de l'Opéra de Paris, avec des conférences, des rencontres, des expositions, en plus des spectacles programmés dans le cadre de la saison 2017-2018 pour rendre hommage aux grands moments et aux grandes figures qui ont fait l'histoire de cette maison. Stéphane Lister, bonjour.
Bonjour.
Extrait, vous l'entendez, du tout premier opéra jamais donné, Pomone de Robert Cambert, ici par la Symphonie du Marais. Trois dates clés pour cette grande institution. 1669, Louis XIV signe la naissance de l'Académie d'Opéra. 1875, le Palais Garnier est né. 1989, l'Opéra Bastille est inauguré. Quels sont les fantômes de l'opéra que vous avez aimé croiser depuis 4 ans que vous dirigez cette institution, Stéphane Lister?
Les fantômes, c'était justement c'était l'idée de préparer cette année 2019, c'est-à-dire de réfléchir sur une programmation qui puisse rendre hommage d'une certaine façon à des compositeurs, à des metteurs en scène, à des chanteurs, à des titres même qui ont marqué l'histoire de cette maison. Et donc j'ai un peu composé cette programmation dans cette idée-là. C'est-à-dire l'idée que finalement, avant bien sûr la construction de la Bastille il y a 30 ans, il y avait la salle Le Pelletier, etc. Mais il y avait surtout la naissance de l'Académie. Donc la naissance de l'Académie royale, comme vous venez de le dire, c'est le point de départ, hein, c'est le point de départ de cette histoire. Et d'ailleurs, on a voulu intituler, sous-titrer « Moderne depuis 1669 » parce que cette maison, finalement, aussi bien à travers le ballet qu'à travers l'opéra, elle a connu des grands moments de modernité. Et elle a toujours été finalement assez en avance et je pense particulièrement au ballet. Et donc, cette idée de rendre hommage à cette maison, c'est évidemment de s'appuyer sur les artistes. On va parler bien sûr de la commande que j'ai souhaité passer à Claude Lévesque, qui s'inscrit aussi dans cette idée du patrimoine, de l'histoire, de l'architecture de cette maison. Mais c'est surtout les artistes que j'ai voulu réunir pour
donnez-nous quelques noms quand même. Bon, oui. Père de famille, vous n'allez pas vouloir choisir entre vos enfants.
Si, je vais choisir. Oui, j'ai aucun problème pour choisir. si. Alors, on va prendre bien hommage à un metteur en scène, Bob Wilson. Hommage à un chanteur, Roberto Alagna. Hommage à un compositeur, on peut dire Shostakovich, avec Lady Macbeth, par exemple, qui a marqué en 1992, qui a été pas créé en France, parce que d'autres villes en province l'avaient présenté, mais à Paris, c'était un choc de découvrir cet opéra, donc j'ai voulu une nouvelle production de Lady Macbeth, mais aussi avec Varlikovsky, qui a marqué beaucoup cette histoire de l'Opéra Bastille, en particulier depuis 30 ans.
Christophe Varlikovsky, hommage à
Comment?
Non, je précisais le metteur en scène, Christophe Varikovsky.
Hommage à un titre, Les Indes Galantes ont marqué beaucoup l'histoire de cette maison. Les Indes Galantes sera donnée à la rentrée 2019 avec Leonardo Garcia Alarcón et Clément Cogitor. Donc voilà, l'idée toujours d'associer le Tristan Isolde qu'on vient de donner. Pour moi, c'était un hommage à Gérard Mortier qui a dirigé cette maison il y a quelques années. Voilà, il y a plein d'autres choses. Et puis, il y a surtout... Aussi important pour moi, l'ouverture vers l'extérieur. Vous l'avez dit, les institutions, ça pour moi c'est très important.
On va en reparler puisque tous ces événements vont ponctuer l'année prochaine. Après avoir habillé le Louvre il y a 3-4 ans, il va installer ses œuvres à l'Opéra de Paris, des Saturnales qui seront dévoilées cette semaine. Claude Lévesque, bonjour.
Bonjour.
Entre le dénuement, le gris de l'Opéra Bastille, les ors, les bois, les ornements de l'Opéra Garnier, deux terrains de jeu très différents qui s'offrent à vous pour l'occasion. Vous avez déjà exploré les coulisses de l'Opéra de Paris dans un court-métrage réalisé pour la troisième scène de l'Opéra Le Lac Perdu. Vous avez choisi de nous faire voir cette institution autrement, cette fois-ci, de redimensionner l'espace à votre manière. Comment va se composer ce parcours initiatique ?
Le parcours commence par le toit de l'Opéra Bastille, puisque j'ai choisi d'intervenir en posant quelque chose. Je ne vais pas le dévoiler parce que ce sera visible dès demain soir. Donc je dis à la tombée du jour, donc c'est un élément de lumière extrêmement impactant sur ce qu'on doit voir de la place et d'ailleurs.
Est-ce que ce sera du rouge? Je m'y essaye.
Non.
Mince. Place de la Bastille, bon. Du jaune?
Non.
Cette circonstance non plus?
Non.
Bon, vous ne me le direz pas de toute façon, c'est ça?
Il y aura
des installations aussi dans les opéras, dans
donc
Garnier.
À l'intérieur de l'opéra Garnier, donc j'ai choisi un parcours enfin d'intervention qui est adapté à tous ces éléments d'architecture, qu'ils soient sur la structure ou dans le détail, puisque Charles Garnier a vraiment créé déjà lui-même une allégorie comme ça avec son architecture et puis la façon dont on circule déjà dans le théâtre, dans l'opéra en parcourant cette architecture. Donc moi j'ai trouvé une adaptation comme ça onirique qui puisse fonctionner et qui soit vraiment en écho avec tous ces éléments de l'architecture. Ça part de la rotonde des abonnés jusqu'à l'escalier, jusqu'au grand escalier. Donc à chaque fois c'est vraiment une question de... C'est une sorte de dialogue avec l'architecture. Et pour moi c'est ce qui est important, c'est-à-dire que l'architecture en même temps un support, pas forcément un support critique ni analytique, mais une façon dont je vais développer ma fiction, une sorte de, comme ça, de parcours fictionnel, avec des éléments que je mets vraiment en écho avec ces lieux. Voilà, donc... mais c'est à la base... sur de l'existant qui m'intéresse, quoi, qui est quand même très chargé de toutes sortes d'histoires.
Pas simplement architecturalement parlant.
Enfin, tout le contenu, ouais. Enfin, tout...
Alors justement, Claude Lévesque, vous dites souvent la lumière théâtralise, mais là, comment ne pas surthéâtraliser un lieu déjà, par essence, spectaculaire, un temple de la fiction, cette grande machine fantasmagorique, comme on appelle parfois l'Opéra de Paris?
Alors après, j'ai essayé d'être le plus léger possible et le plus adapté possible. C'est-à-dire que, en même temps, on pourrait presque penser, on va voir ça une fois que tout va être vraiment en place, concrètement, on peut presque penser que ça a toujours été là, quoi. C'est pas vraiment, je suis pas dans une position de vouloir choquer par un geste particulièrement. C'est presque, enfin, c'est puis l'histoire des Saturnales, de cet aspect festif et de tout ce que ça représente, c'est vraiment dans l'inscription que j'ai pu faire. Donc il y a pas, j'ai évité effectivement, j'ai retenu tout ce qui pouvait être la surenchère lumineuse, la surenchère des effets. Donc c'est des effets qui vont se fondre avec l'existant. Et pour moi, c'est là-dessus, j'ai beaucoup travaillé sur cette question, avec en plus, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir travailler avec les équipes de l'opéra, ce que je voulais vraiment. Lorsque Stéphane Lister m'a proposé d'intervenir, Donc j'ai bouclé un projet assez rapidement, justement pour être sûr de travailler avec les gens de l'opéra qui sont extraordinaires, pour lesquels j'avais déjà expérimenté des choses qui m'ont servi dans mon travail lors de la mise en scène, la scénographie d'Angelin Préjlocage, Siddhartha. Donc à chaque fois que j'ai travaillé avec eux, ça a été vraiment un apport vraiment considérable sur la forme.
Alors les Saturnales, juste dans l'Antiquité romaine, c'était des fêtes qui célébraient le dieu Saturne. On imagine donc des installations qui seront festives à l'occasion de cet anniversaire, cette date anniversaire des 350 ans de l'Opéra de Paris. Stéphane Lissner, pourquoi avoir invité l'homme qui clame par néon interposé « Nous voulons en finir avec ce monde irréel ». C'est du sabotage. Ça, c'est un peu une drôle d'idée pour un anniversaire, une commémoration.
Moi, je connaissais le travail de Claude. Il y a eu ce ballet, mais je connaissais le travail qu'il avait fait au Louvre, avec la pyramide, etc. Pour moi, Claude, ça représente l'illusion, ça représente le patrimoine et donc l'univers théâtral. Et donc, pour moi, proposer à Claude... en vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés parce que je lui ai proposé de faire un film pour la troisième scène. Il s'appelle « Le lac perdu » et que... qu'on peut voir sur le site de l'opéra à travers la troisième scène. Et de ce travail qui a été fait, de nos conversations, moi je souhaitais qu'un artiste puisse investir ces deux théâtres et qu'on s'ouvre aussi à un public différent qui vienne voir effectivement ce travail visuel. Et pour moi, Claude, ce qu'il fait est très théâtral. Ce qui fait très très très. Et d'ailleurs, quand on a eu ces conversations et qu'il m'a proposé ce projet, quand j'ai découvert ce projet, pour moi, je n'ai pas pensé « Ah, ça va choquer, ça va étonner, ça va... » Non, j'ai pensé « C'est incroyable d'avoir, pour moi, le parcours, non seulement ces deux lieux qui sont tellement différents, et en même temps, je vois, moi, dans ce projet, un lien entre les deux sites. » Et comme moi, j'essaie de défendre toujours l'idée que l'Opéra National de Paris, c'est la Bastille et c'est Garnier, ces deux théâtres-là, là, pour moi, il faut les relier, les lier le plus possible. Et ce projet-là, pour moi, c'est aussi le lien entre ces deux institutions.
Voilà, les deux jambes qui vont être réunies à travers vos installations. Claude Lévesque, en 1964, un autre grand artiste a laissé sa marque sur le plafond de l'Opéra Garnier. C'est Marc Chagall, bien sûr, à la demande d'André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles. Il racontait à l'époque ses doutes quand on lui a demandé l'inauguration de ce plafond et sa réalisation.
Bien sûr, quand Malraux m'a proposé ça, j'étais un peu ahuri, il faut dire la vérité. J'étais très étonné. J'ai senti que c'était une chose très sérieuse. Et ça a duré peut-être plusieurs mois, vous savez, avant que je me réveille. Avant que j'ai... Pas de question de prendre la crayon dans la main. J'étais étonné. Mais voilà, ma femme encore, je dois dire, c'est elle qui a dit, assez de se tourmenter, fais quelque chose. Essaye de faire quelque chose, fais quelques esquisses, quelques maquettes, et tu vas voir si ça va.
Quels sont les différents thèmes?
Il n'y a pas de thèmes, vous savez. Est-ce qu'il y a, des thèmes dans notre vie, dans notre existence? Dans ce mouvement planétaire, il y a toujours la vie. Ça tourne quelque chose et ça, après, ça devient un symbole, ça devient un thème, si vous voulez. Mais moi, avant tout, je n'ai pas de thème. Je ne commence pas par des thèmes.
Vous avez travaillé à la lumière naturelle, mais quand votre plafond a été mis en place, la salle était éclairée. Est-ce que la couleur a subi une transformation?
Ça, c'est une question très intéressante. Mais il faut penser à toutes ces choses. Instinctivement, il faut penser à tout. Il fallait penser à la lumière qui est là-bas. Il n'y a jamais là-bas la lumière du jour, il n'y aura pas. Il fallait penser au rouge de velours, au l'or de carotide. Il ne faut pas oublier toujours le génial Garnier d'architecture, qui est une chose formidable. Je pensais apporter de nous tous une sorte de bouquet, un hommage à Garnier de notre époque.
Voilà, de la difficulté de mettre de la lumière dans un lieu de lumière. Vous nous évoquiez, Claude Lévesque, vos néons, les résonances que vous voulez opérer avec l'architecture des lieux. Mais alors j'ai envie de poser la même question qui était posée à l'époque à Marc Chagall. Et vous, est-ce que vous avez travaillé à la lumière naturelle pour imaginer ces installations ou est-ce que vous les avez pensées aussi quand le lieu est ou sera éclairé comme un soir de gala?
Ah oui, j'ai tout à fait... J'ai tout à fait réfléchi sur le lieu existant, donc avec son éclairage, donc qui va être modifié, qui va être métamorphosé pour Garnier. mais dans quelque chose d'assez lié au cosmos, à des représentations très très allégoriques, avec cette question aussi qui peut rejoindre les deux processus, c'est la question du couronnement aussi. Par plusieurs éléments, mais je peux pas les décrire, donc, parce que je réserve l'effet de surprise.
Fichtre, racontez un petit peu, parce qu'en plus, tous ceux qui nous écoutent n'habitent pas à Paris, ils ne passeront peut-être pas à les voir, racontez-nous.
Non, mais ça, je pense que c'est bien de les découvrir. Après, la radio, en plus, c'est difficile, parce que de créer comme ça des images, parce qu'il est question aussi d'images, d'onirique, tout ça, donc c'est beaucoup mieux. Après, vraiment, c'est j'insiste beaucoup sur cette question du non pas du soulignement, mais de l'adaptation. C'est-à-dire que c'est une fiction qui se colle à une fiction. Et ça, je trouve que Charles Garnier, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui invite à la féerie, au théâtre, à l'opéra, dès lors qu'on pénètre dans cet univers. Cet univers qu'on voit déjà de l'extérieur. Voilà, et vraiment pas par essence même un véritable univers allégorique. Donc j'ai fait que assez modestement, mais avec des éléments comme ça qui vont quand même impacter la sensibilité, l'émotion du visiteur. J'ai quand même vraiment, c'est comme si j'allais travailler avec lui d'une certaine façon. Quoi. Et c'est en ça que ça m'intéresse, quoi. Sur la question aussi de l'architecture, puisque je trouve que l'architecture de Charles Garnier est très mécanique, même si elle est très ornée, elle est quand même très mécanique.
Vous attendez de Claude Lévesque une mise en lumière aussi du patrimoine, du lieu, de cette institution, Stéphane Lissner. De quoi avez-vous hérité? Comment vous pouvez raconter, décrire la particularité, la spécificité de ces deux lieux, l'Opéra Bastille et l'Opéra Garnier?
Le théâtre de la place de l'Opéra, c'est un théâtre bien sûr du 19e siècle, c'est un théâtre qui s'inscrit à ce moment-là aussi dans l'époque du grand opéra français. C'est d'ailleurs pour ça que nous présenterons aussi une exposition autour du grand opéra. Alors que l'Opéra Bastille, lui, va avoir un objectif beaucoup plus un objectif de public. On se pose la question du public et donc on cherche un lieu qui va être populaire, où il va y avoir une visibilité, une salle de 2700 places, etc. Donc ce sont deux lieux qui sont différents. C'est d'ailleurs pratiquement la seule capitale au monde qui a la chance d'avoir deux théâtres qui peuvent s'exprimer aussi à travers le répertoire.
Avec des qualités et des contraintes très différentes pour chaque lieu.
Ah oui, avec des contraintes, mais je dirais même avec un état d'esprit différent dans les lieux. Moi qui dirige les deux théâtres, je ressens, et j'imagine que Claude, quand il a... lui, il a travaillé avec les ateliers. Alors les ateliers ne sont qu'un, c'est certain. Mais par contre, quand on commence à pénétrer dans Garnier, ou quand on commence à pénétrer dans Bastille, dès qu'on arrive dans le hall, et plus on va s'avancer dans la salle, et sur le plateau, et partout, ce sont deux théâtres qui n'ont absolument rien à voir, dont la conception est totalement différente, avec une hyper-technologie d'un côté, et un théâtre dit à l'italienne traditionnel de l'autre. Hein, ça sent la cire, ça sent le bois d'un côté, et de l'autre côté, je dirais, ça sent l'espace. Ça sent l'espace, l'immense espace. Donc ce sont deux lieux. Ce qui est intéressant dans ce qu'a fait Claude, c'est justement qu'il a, je pense, réussi d'abord avec le dehors et le dedans. Parce que finalement, ce qu'on peut dire, c'est quand même, sans dévoiler rien, c'est qu'on est dans le dehors avec l'Opéra Bastille, et on est dans le dedans avec Garnier. Ça déjà, ça m'intéressait beaucoup. Hein. Bon, encore une fois, je ne peux pas aller plus loin, mais je pense que... Quand on va le découvrir, on le comprendra. Ça, c'est le premier point, mais le deuxième point, c'est ce lien dont je parlais tout à l'heure. Après, on peut parler pendant des heures sur l'Opéra Garnier et sur l'Opéra Bastille. On peut dire que l'un est beaucoup plus théâtralisé, encore une fois. On peut dire que l'autre donne un sentiment plus d'entreprise, de spectacle, du spectaculaire, du grandiose. C'est l'opéra, le grand opéra du 19e. Mais si vous voulez faire Così fan tutte d'un côté, et si vous voulez faire Lohengrin de l'autre, vous avez la chance extraordinaire d'avoir des espaces différents. Vous savez, l'espace joue un rôle déterminant. J'ai travaillé, comme vous le savez, pendant plus de 10 ans avec Peter Brook, donc j'ai beaucoup réfléchi sur la question de l'espace.
Au Théâtre des Bouffes du Nord.
Au Théâtre des Bouffes du Nord. Et donc, ces deux espaces sont évidemment des espaces très différents qui nous imposent, qui nous font réfléchir et qui font aussi, je pense, évoluer la représentation, l'interprétation musicale et l'interprétation théâtrale.
Alors, pour se souvenir de la rupture qu'a aussi constitué dans le paysage culturel parisien et national, l'ouverture de l'Opéra Bastille, retour en 1989, au moment de l'inauguration des lieux.
Certes, le public de Paris était tenu à une distance plus que respectable, mais quel producteur aurait pu imaginer pour sa générale une assistance aussi prestigieuse, une salle aussi brillante ? Ce sont en effet 33 chefs d'État ou de gouvernement, pas moins, qui ont inauguré avec éclat le dernier haut lieu de l'art lyrique. Autour d'eux, entre le parterre et les balcons, les membres des délégations étrangères, du gouvernement, des corps constitués, mais aussi des invités du chef de l'État et de l'Opéra de Paris. En tout cas, tous triés sur le volet. Dernier arrivé et chaleureusement applaudi par les 2700 personnes présentes à cette soirée exceptionnelle, François Mitterrand installé à la corbeille au milieu des hommes et des femmes parmi les plus puissants de la planète. Sur la scène, gigantesque et impressionnante, le gratin du chant lyrique. Ruggiero Raimondi, Placido Domingo, Barbara Hendricks entre autres, et deux étoiles françaises de la danse, Manuel Legris et Elisabeth Platel, tous accompagnés par l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra dirigé par Georges Prêtre, dans un programme entièrement chanté en français. Un programme ouvert et refermé sur la Marseillaise. L'Opéra Bastille a véritablement connu ce soir l'une de ces soirées historiques qui, des années durant, font la joie nostalgique des amateurs. Il a surtout donné les trois coups des festivités haut de gamme du bicentenaire de la Révolution française.
1989, c'est Pierre Berger, tout juste nommé président, qui va orchestrer les cérémonies d'inauguration de l'Opéra Bastille et qui va aussi réaliser pendant ces années-là cette partition à laquelle on s'est un poil habitué entre l'Opéra Garnier, plutôt réservé à la danse, au ballet, et l'Opéra Bastille, plutôt dévoué, consacré, dédié au lyrique. Il faut savoir brouiller aussi cette partition, comme on le voit d'ailleurs en ce moment, oui, avec une Dame aux Camélias d'un côté et Cendrillon de l'autre, Cendrillon à Bastille. La Dame aux Camélias à Garnier.
Et Cenerentola de Rossini, également à Garnier. Donc je pense que nous avons à peu près, nous avons 5 productions lyriques à Garnier et 15 productions lyriques à Bastille, et inversement, 10 grands ballets à Garnier et 3 ou 4 ballets à Bastille. Oui, mais on a cette chance-là, c'est le répertoire. C'est le répertoire. La Dame aux Camélias, qui est cette chorégraphie de Neumeyer, évidemment prend beaucoup plus de sens par rapport à l'intimité de l'œuvre jouée à Garnier que jouée à Bastille. Par contre, quand on donne un grand ballet de Nourrieff, comme Le Lac des Cygnes par exemple, ou comme Cendrillon actuellement, eh bien ça peut s'adresser au plus grand nombre. Et la grande réussite de l'Opéra Bastille, c'est ces 100 000, 120 000 spectateurs qui vont venir pendant ce mois de décembre. Et vous voyez des familles entières venir de toutes les régions de France qui viennent l'après-midi, le soir, pour venir voir ces grands ballets classiques ou pour venir voir un Cendrillon de Rossini. Et c'est ça, c'est le succès. C'est quand même pratiquement 1 million de billets vendus par an. Et ça, ça ne peut pas être réservé seulement à une petite élite. C'est beaucoup trop cher. Il y a beaucoup de travail à faire encore pour ouvrir nos théâtres au plus grand nombre. Je le sais et j'y travaille et je me bats là-dessus, mais quand même 1 million de personnes viennent maintenant chaque année dans nos deux théâtres.
Et la question des prix, la question des tarifs, c'est un peu le problème éternel et récurrent de tous les patrons de l'opéra, de l'institution, qu'ils soient président, directeur ou administrateur général de l'Opéra de Paris. Je vous propose d'écouter les mots de Rodolphe Liebermann, qui a été une des figures de ce lieu. Il l'a dirigé entre 73 et 80. Il va profondément modifier le fonctionnement de l'institution, supprimant la troupe lyrique, ouvrant la distribution à l'international, invitant des metteurs en scène audacieux, dont Patrick Chéreau à l'époque. Il va réformer aussi l'orchestre. Écoutez-le en 1973.
J'ai commencé en juin 72 de travailler. Et maintenant, on verra si ce travail porte des fruits. Moi, je l'espère. Je ne peux pas plus dire. Il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Nous sommes maintenant à des prix de 5 francs à 70 francs, ce qui est comparé à la qualité que nous offrons et comparé aux frais du plateau que nous offrons. Le théâtre le meilleur marché du monde de cette catégorie, ça je peux vous jurer, c'est beaucoup moins que le La Mette, c'est beaucoup moins que la Scala, c'est moins que Hambourg, Berlin, Munich. C'est vraiment très bon marché et c'est très démocratique. Nous avons tout prévu qui fait possible de créer un nouveau public.
Rolf Liebermann en 1973, et non pas Rudolf, j'ai une oreillette en tête, je ne peux pas le quitter. Pardon, Stéphane Lissner, le coup de sa politique lui avait été d'ailleurs reproché déjà à l'époque. Comment régler ce problème majeur? Il est totalement insoluble pour vous?
Non, il n'est pas insoluble, mais ce qui est intéressant de dire, c'est que les propos aujourd'hui de Liebermann seront les mêmes que les miens, c'est-à-dire que si on compare les prix de la Scala de Milan, de Covent Garden, du Metropolitan Opera, nous sommes moins chers. C'est vrai, mais nous sommes trop chers. Alors, que faire?
Et comment faire toujours moins cher quand en plus les subventions baissent?
Eh bien justement, comment faire? Il y a plusieurs solutions. La première solution, elle est de commencer à baisser les dépenses et à produire davantage. Et en même temps, d'ouvrir au public en proposant des opérations particulières. Les avant-premières à 10 euros, qui permet aux moins de 28 ans, à 35 000 jeunes, de venir assister au spectacle. Des moins 40% pour les moins de 40 ans. Le pass jeune, les abonnements. La troisième scène, qui est accessible et gratuite à tous. Énormément de choses qu'on fait autour, et qui permet quand même de vendre 370 000 billets à moins de 70 euros. C'est pas rien. Donc, il y a tout un travail qui est fait. Nous sommes aujourd'hui devant une contrainte qui fait que nous avons un autofinancement qui dépasse maintenant les 55%. Nous devons réaliser, je vous le disais tout à l'heure, environ 1 million de billets, soit à peu près 75 millions d'euros de billetterie. Donc, c'est chaque soir une bataille pour remplir ces deux théâtres et pour être complet, sans tomber, bien sûr, dans un répertoire qui serait un répertoire trop facile et qui ferait que nous ne pourrions pas présenter des œuvres à faire découvrir ou des créations comme nous le faisons. Mais je crois que l'Opéra de Paris, grâce aussi à toutes les activités qui permettent à des jeunes de venir à l'Opéra, s'est beaucoup ouvert pendant ces dernières années. On prend toujours comme référence le prix le plus haut, mais on pourrait aussi prendre la moyenne du coût de la place, qui est en dessous inférieure à 100 euros. Et encore une fois, par rapport à la qualité des distributions que vous avez sur le plateau, par rapport aux propositions des metteurs en scène, je crois que les meilleurs metteurs en scène cette année sont là. On parlait de Christophe Arlikowski, de Romeo Castellucci, de Clément Cugitor, enfin des grandes personnalités sont tous là, pratiquement, tout le monde est là.
Ils continuent de venir.
Et donc ils continuent de venir.
Il faut pouvoir les faire venir.
Et je pense, à fait fondamental, c'est la mission du service public et il faut continuer à se battre, mais on progresse.
Claude Lévesque, c'est une des particularités de ces installations. Vous allez les faire produire en interne. Vous avez évoqué vos retrouvailles avec l'Opéra de Paris, où vous avez déjà signé plusieurs scénographies, notamment en 2004 avec le Mean Event de Merce Cunningham, ou en 2010 celle de Siddhartha, le ballet d'Angelin Presles-Locage. Je ne sais pas habituellement qui s'y réalise vos installations, si vous les réalisez tout seul ou pas, mais là vous aviez donc confié leur réalisation aux ateliers de décor de l'opéra. C'est le passage de l'artisanat à l'art pour ces équipes.
Moi je travaille toujours avec des équipes, hein, parce que souvent ce que je produis est assez complexe, donc c'est toujours travaillé. Enfin, je ne suis pas dans mon atelier à faire. Je ne fais pas de peinture, je ne sculpte pas.
Donc il vous faut des mains.
Donc il me faut effectivement des savoir-faire qui varient selon les projets et avec lesquels je suis très très lié, quoi. Il faut effectivement qu'on puisse, il faut une zone de compréhension importante. Bon, je travaille avec Art Project par exemple sur beaucoup de mes réalisations, la plupart de mes réalisations qui sont basées près de Lyon à Millery. Et voilà, faut que ce soit vraiment, c'est des gens avec qui je travaille, c'est pas des gens à qui je commande. C'est un échange.
Et donc là, l'échange va se faire autour de quoi avec les artisans de l'Opéra de Paris?
Sur la production de pas mal d'éléments, qu'ils soient des éléments matériels, lumineux, voilà.
Ce qui les changera.
Et à chaque fois, bon, ce que je disais, c'est travailler avec ces équipes-là qui ont vraiment une sorte de magie. Et donc c'est un plus, parce que tout va être réalisé pour être le meilleur possible. Moi, je travaille jamais avec des gens qui ont travaillé inférieurement. L'idée, c'est toujours s'adapter aux contraintes. Il y a des contraintes, moi, que je comprends pas toujours très bien. Donc souvent, travailler avec ces gens-là, c'est un plus là-dessus.
Alors, on découvrira vos Saturnales cette semaine et elles resteront en place jusqu'à la fin de l'année prochaine,
les
Saturnales de Claude Lévesque. On a peu eu le temps d'en parler, mais donc je vais quand même le signaler. Je le disais, beaucoup d'événements, de rencontres, de masterclass à venir l'année prochaine et un opéra qui va se délocaliser aussi à travers des partenariats avec des institutions, des musées. Dès mai, le Centre National du Costume de Scène de Moulins racontera une histoire du costume depuis l'ouverture de l'Opéra Garnier à travers une centaine de pièces. En juin, c'est le Centre Pompidou-Metz qui proposera une traversée de l'histoire de l'opéra dans les relations avec les arts visuels. Ça s'appellera Opéra Monde, la quête d'un art total. L'Opéra de Paris, une institution parisienne, mais aussi un patrimoine national à valoriser, donc sur l'ensemble du territoire. Un grand merci à vous, Stéphane Lissner. Vous ne nous avez pas donné encore annoncé le programme de la saison 2019-2020. On ouvrira avec quoi ?
On ouvrira avec les Indes Galantes dans la mise en scène de Clément Cogitor.
Septembre 2019 ?
Fin septembre 2019.
Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table.